Vous écoutez
RMC.
RMC, 7h-8h.
S'ils sont venus par la cheminée, né, ils vous répondent, c'est évident.
Votre maison.
Seulement la cheminée tirait correctement, on pourrait faire un bon feu.
Coupe du bois, ferme ta gueule.
Ouais, allez, patron, mettez-moi ça à cramer dans la cheminée, vous serez gentil.
On voulait faire un feu, et c'était obstrué par une grosse motte d'étoupe. J'ai mis mon jacouille sur mes épaules pour dégager.
François Sorel, Christian Pesset.
J'aimerais pas monter sur vos épaules, Christian. Et encore moins l'inverse.
Oui. C'est sympathique.
Mais non, mais c'est pour plaisanter. Ouais.
Mais
vous savez.
Oui, je le sais bien.
J'aime bien, châtie bien.
Non, vous n'êtes pas lourd, non.
7h32. C'est le week-end des experts et c'est la maison avec Christian Pessé. Et on va se chauffer. Sauf chauffer au bois,
voilà,
tiens.
Voilà, on va se chauffer au bois, mais on va se poser principalement la question de savoir si le bois peut remplacer le fioul ou le gaz, mais principalement le fioul, dont la fin est programmée d'ici 10 ans et dont le prix a explosé ces dernières semaines. Le gaz est aussi très cher, c'est une énergie fossile, même s'il y a maintenant une émergence du gaz vert. Alors, le bois, est-ce véritablement une alternative aux énergies fossiles? Alors, nous sommes ce matin avec Alexandre Roche. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué général du syndicat des énergies renouvelables. Donc, vous ne vous occupez pas que du bois, mais tout particulièrement porteur du label Flamme Verte. On verra tout à l'heure ce que c'est que ce label. Ma première question, elle est simple. Est-ce qu'on peut véritablement se chauffer? Est-ce que le bois est un véritable moyen de chauffage? Ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu ludique, d'un peu simplement agréable, on va dire? On peut vraiment chauffer une maison, je sais pas, de 150 ou 200 mètres carrés pour la maison de François, par exemple. Est-ce qu'on peut se chauffer au bois?
L'une de mes maisons.
L'une de vos maisons,
bien sûr.
Oui, bien sûr, on peut se chauffer intégralement au bois. Il y a des chaudières aujourd'hui, qu'elles soient à bûches ou à granulés, qui permettent de remplir l'ensemble des fonctions de chauffage d'une maison classique. Donc on peut produire de l'eau chaude avec du chauffage au bois, on peut chauffer des espaces, soit via des radiateurs classiques, soit même des planchers chauffants qui peuvent être alimentés par des chaudières bois.
Donc alors on remplace donc carrément, on a des puissances suffisantes pour remplacer par exemple purement et simplement sa vieille chaudière fioul par une chaudière bois. C'est quoi les puissances?
Tout à fait. Bon, les puissances varient en fonction de la taille de la maison, mais vous avez largement sur le marché de quoi remplacer des chaudières fioul avec des systèmes qui viennent se brancher sur le système qui est déjà existant. Donc c'est évidemment tout à fait possible.
Donc il n'y a pratiquement rien à faire, c'est simplement un remplacement.
Alors c'est un remplacement. Ensuite, on le verra, il y a la question du combustible.
Ah oui.
Et de
justement,
l'entretien.
Le bois.
Voilà, il y aura des petites spécificités à prendre en compte, mais en tout cas, c'est en effet tout à fait envisageable.
Bon, alors quand on parle bûche, on s'imagine toutes les demi-heures aller remettre des bûches dans la chaudière, c'est peut-être pas terrible pour la nuit. Alors il y a véritablement des alimentations automatiques. Je parle de bûche, hein. On parlera de granulés ensuite, mais en bûche, ça existe véritablement les alimentations automatiques?
Alors,
ou bien est-ce que les durées de chauffe sont suffisantes pour faire ce qu'on appelait le feu continu autrefois?
C'est plutôt cette deuxième option. C'est-à-dire que maintenant, on a du durée de chauffe qui permettent d'alimenter une fois par jour la chaudière. Et à côté de ça, on a en effet l'option du granulé. Là, on a en fait des bacs qui permettent de stocker. Alors ça peut varier en fonction de l'espace dont on dispose. Mm-hmm. Des bacs qui sont ensuite alimentés par des systèmes de vis sans fin qui permettent de gérer un chauffage de manière totalement indépendante. Et on en parlera peut-être. On voit également apparaître de plus en plus d'applications qui permettent en plus de gérer tout ça à distance et de programmer très classiquement comme avec son thermostat dans sa maison, très classiquement le chauffage et la vis sans fin vient ensuite chercher les granulés et alimenter. Alors,
je veux dire,
en
vous me dites que si je veux vraiment de la bûche, parce que si j'ai beaucoup de bûches, beaucoup de bois dans mon environnement, là, on peut véritablement dire qu'on ne recharge qu'une fois par jour?
Oui, on peut recharger une fois par jour à peu près avec les chaudières.
Ou tout au moins une fois le matin et puis peut-être une fois le soir.
Ouais, peut-être. Ça va dépendre évidemment de la taille de votre maison.
D'accord.
De l'isolation de votre maison.
Puis de la température extérieure, j'imagine.
Et la température extérieure, de votre exigence de température intérieure.
Voilà,
plusieurs facteurs à prendre en compte.
C'est des bûches de quoi? De 30, de 50? Alors, 50?
On peut aller jusqu'à 50, ouais.
D'accord.
Ouais.
Et donc, alors, en revanche, le granulé, le stockage, c'est quand même important. Qu'est-ce qu'il faut comme volume de stockage? Vous parlez de cette alimentation par vis sans fin ou par trémie.
Alors, il y a des chaudières qui ont des dispositifs de stockage intégrés directement dans la chaudière. Donc, c'est une espèce de tiroir qu'on peut alimenter avec un sac voilà, une fois tous les 48 heures ou une fois par semaine. Et puis, il y a des systèmes avec des stockages séparés, où là, on a une espèce de silo, en fait. Alors, ça peut être un silo construit à côté, ouais, en bois, en aluminium ou en métal. Ou alors, ça peut être également un gros sac en toile, dans lequel on peut mettre en fait plusieurs tonnes même de granulés. Évidemment, il faut avoir dans sa cave l'espace pour le faire.
Oui, parce que si c'est dehors, ça va devenir humide.
Alors, il faut que ce soit dans un endroit évidemment sec, puisqu'on en parlera peut-être tout à l'heure. L'enjeu, c'est aussi d'avoir un combustible de qualité et donc avec un taux d'humidité contrôlé. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour ces granulés, ça change pas grand-chose finalement en termes d'approvisionnement pour les gens qui avaient par exemple une chaudière au fioul et qui souvent venaient se faire alimenter par un camion, qui venaient se brancher.
C'est le même principe.
C'est le même principe. On a des camions qui viennent souffler avec des tuyaux les granulés dans l'espace de stockage en fait. Donc, c'est exactement la même chose.
Mais est-ce que c'est vraiment économique? Parce que est-ce que notamment, puisqu'on parle granulé, est-ce que le prix est constant en France? Parce que moi j'avais entendu dire que suivant la possibilité, la facilité d'approvisionnement, il pouvait y avoir des variations très sensibles du prix du granulé.
Bah alors, on a des prix de marché qui sont relativement stables. Et d'ailleurs, j'invite les gens à regarder le site de l'ONF Énergie qui présente l'évolution des différents prix des combustibles pour le particulier. Donc on voit que le granulé a été quand même relativement stable sur ces dernières années. Et de notre point de vue, le restera, puisque c'est une énergie en général plutôt locale. Donc on a vraiment cette stabilité. Et elle est très économique, puisque, oui, donner quelques chiffres, oui, le granulé, c'est 6 cents d'euros le kilowattheure. En moyenne, la bûche c'est un petit peu en dessous, c'est entre 4 et 5, donc on est voilà sur des prix extrêmement compétitifs, et le bois c'est aujourd'hui pour un ménage un moyen extrêmement concret de contrôler sa facture énergétique.
Messieurs, nous avons Audric au 32-16. Bonjour Audric.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, j'avais une question par rapport au plancher chauffant, parce qu'on a une maison récente avec une pompe à chaleur et plancher chauffant. Et pour savoir s'il y avait un risque d'installer un poêle à bois ou un nacelle là où passent les tuyaux, en fait.
Oui, ça c'est une bonne question, parce qu'on peut avoir effectivement l'association, par exemple, d'un plancher chauffant, et puis c'est l'association d'un système, en l'occurrence là, d'une pompe à chaleur et du bois en complément. Moi je pense que c'est une bonne idée, parce que la pompe à chaleur c'est très bien jusqu'au gel, et puis en dessous, moi je préfère qu'on ait un autre système de chauffage. Alors cette problématique, est-ce qu'on peut poser un poêle directement sur un plancher chauffant?
Alors je pense pas qu'il y ait de problème particulier. Simplement, faudra veiller, mais en général, c'est comme ça que c'est installé, à ce qu'il y ait une plaque en dessous du poêle. Mais je pense pas qu'il y ait de problème particulier à
donc
installer.
C'est une plaque anti-feu, enfin anti-chaleur.
Voilà.
Il y a la même chose aussi pour le mur. Hein. Je pense qu'il y a des distances à respecter.
Exactement. Et de toute façon, s'il va y avoir un doute, votre installateur pourra de toute façon vous conseiller. Mais a priori, je vois pas de contre-indication majeure.
D'accord. Et pourquoi avez-vous envie de passer au poêle à bois? Audric.
Mais justement, c'est pour. Je trouve qu'on sent de suite le froid quand le temps est plus humide, ou c'est vrai quand il gèle, la pompe à chaleur marche en permanence pour produire le feu, quoi.
Mais vous savez, la pompe à chaleur, c'est super jusqu'à une température. Autrefois, on disait 7 degrés. Alors en gros, maintenant avec les systèmes inverters, etc., on descend au gel. Alors on vous dit une pompe à chaleur, mais ça chauffe jusqu'à moins 15. D'accord. Mais au-dessus du gel, vous avez un COP, c'est-à-dire un coefficient d'efficacité de 4, voire aujourd'hui de 5, c'est-à-dire que lorsque vous utilisez 1 kilowatt d'électricité, vous en restituez 4 ou 5, mais lorsque vous êtes à moins 15, ben vous êtes à un COP de 1, c'est-à-dire que ça ne présente plus d'intérêt par rapport à un chauffage, même électrique classique. Donc oui, c'est une bonne idée d'avoir cette association lorsqu'on arrive sur des températures, comme vous le dites, négatives, ou lorsqu'il fait très humide.
Et en plus, la partie quand même agréable du feu de bois.
Tout à fait, tout à fait. Alors, justement, puisqu'on parle qualité de bois aussi, c'est quoi un bon bois de chauffage? Parce que on peut en acheter aux paysans du coin, et puis on peut en acheter en supermarché ou à la station-service. Attention, bonjour les dégâts en matière de prix. Mais c'est quoi un bon bois de chauffage?
Un bon bois de chauffage, c'est un bois qui a un degré d'humidité contrôlé.
Oui.
Et qui est inférieur à 23%.
Et comment je fais pour contrôler que ça fait 23%?
Alors là, vous avez, vous devez vous tourner vers les labels existants. Donc il y a 3 labels existants aujourd'hui. Il y a NF Combustible Bois, il y a ONF, il y a France Bois Bûche, et puis il y a ONF Énergie Bois. Ça, ce sont trois labels qui garantissent aux gens qui achètent du combustible qu'il y a un taux d'humidité inférieur à 23%. C'est extrêmement important parce que, d'une part, ça va garantir que votre appareil ne s'encrasse pas rapidement. D'autre part, ça va garantir que votre feu va être extrêmement efficace. Et donc, ça va se retrouver sur votre facture. Vous allez acheter votre bois peut-être un tout petit peu plus cher austère, mais vous allez, sur une saison de chauffe, finalement, faire des économies parce que vous allez consommer moins de bois.
Il se consomme plus lentement, c'est ça ?
Il se consomme plus lentement. Il est en général écorcé, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'écorce qui va générer de la cendre inutile, et il va garantir une combustion extrêmement efficace. Et ça, en termes de qualité de l'air, on voit que les appareils ont extrêmement progressé ces 10 dernières années. La prochaine étape, c'est d'avoir un combustible de qualité pour la bûche. Et donc, il y a aujourd'hui déjà des solutions. Je viens de citer les trois labels qui existent. Donc moi, je vous encourage à vous diriger vers ce label.